Interview.
Bonjour, ici Erdivois et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Monsieur Henri Torgue. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous aussi. Henri Torgue, vous êtes pianiste et vous vous présenterez au public samedi 5 avril à 19h30. Ça sera au Café Théâtre Andarta. Vous proposerez donc un voyage musical dans le monde imaginaire de la bande dessinée. Et pour cela, vous avez un récital, un récit proposé au piano solo. Donc ce récital, c'est un apport vocal de votre part également ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai longtemps fait des concerts de piano solo qui rassemblaient les musiques que j'avais faites un peu à droite et à gauche au fur et à mesure de ma carrière. Comme j'ai beaucoup travaillé avec l'image, que ce soit avec l'image vivante, avec les chorégraphes ou avec les danseurs, ou bien de temps en temps au cinéma ou à la télévision, pour accompagner des films. J'avais réuni ces morceaux-là un peu de manière abstraite, je les jouais sans commentaire. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, toutes ces images-là, toutes ces musiques-là, plutôt, sont nées avec l'image. Et d'une certaine façon, ça serait peut-être bien de les relier. Mais comme je ne voulais pas faire de projection pour regarder le côté un peu plus mystérieux de la musique, je me suis dit, mais si je faisais une espèce d'ouverture sur la bande dessinée que tout le monde a en tête, parce que tout le monde en a lu, tout le monde a des références, les jeunes, les anciens, etc. Tout le monde a sa propre connaissance de la bande dessinée, même partielle. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de lancer des pistes sur ce qui décrit cet univers-là, et puis jouer des morceaux qui prolongent la méditation ou la rêverie qu'on peut avoir. Donc c'est un peu comme ça que j'ai composé ce récital. Ouvrir sur des thématiques de la bande dessinée et puis jouer un morceau après qui est issu de ma production ancienne ou récente d'ailleurs qui tente d'illustrer ou de prolonger la rêverie qu'on peut en avoir.
Ça me fait penser à Pierre et Loulou, parce que il y a cet aspect un peu de conte et de l'alternance musicale.
Oui, mais il y a un peu de ça si vous voulez, c'est-à-dire que bon, moi je suis un musicien un peu particulier au sens où je ne suis pas issu de la tradition classique. Je joue les morceaux que j'ai écrits. Comme je vous le disais, j'ai beaucoup travaillé pour l'image. Donc, ça m'a obligé à travailler de manière très, très particulière, quoi. Parfois, c'était au piano solo. Parfois, c'était avec des instruments classiques, enfin, acoustiques. De temps en temps, beaucoup avec les instruments électriques, électroniques. Et donc, de ce panorama-là, j'ai sorti les morceaux qui me paraissaient les plus illustratifs, ceux qui correspondaient le mieux au thème que j'essaye de développer. Par exemple, je vais parler de la vitesse. Comment est-ce qu'on exprime la vitesse en bande dessinée? Ou bien les représentations des femmes? Ou bien, vous voyez, des choses de cet ordre, quoi. C'est-à-dire que l'humour, comment est-ce qu'on est drôle ou pas? Comment ça fonctionne? Donc, j'ouvre des pistes comme ça de réflexion. Puis ensuite, je joue un morceau qui essaye d'agrémenter tout ça et de le prolonger.
Alors, il y a auparavant, on peut peut-être parler aussi de votre expérience musicale avec ces collaborations auprès d'auteurs comme Jean-Claude Galvota ou Philippe Gentil. Il y a un raccord entre la danse, par exemple, la représentation du spectacle vivant, et puis vos compositions.
Oui, c'est-à-dire que avec Jean-Claude Galvota, on a commencé, quand il a fondé sa compagnie, il m'avait demandé de participer au tout début de la compagnie pour faire la musique. Et donc, je me suis retrouvé associé à un grand créateur d'images dansées, d'images chorégraphiées. Et donc, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé à ses côtés pour créer les musiques des spectacles. Et j'avais la chance de jouer les parties de piano sur scène, les autres instruments étant enregistrés, donc de faire les tournées avec les danseurs, d'être au milieu de la danse, très très intégré au mouvement et au spectacle. Alors du coup, c'était intéressant parce que j'avais à la fois le travail de composition, et beaucoup avec Serge Houpin, avec qui j'ai beaucoup collaboré d'ailleurs, et puis moi je jouais sur scène les parties de piano, ce qui m'a permis de voyager pas mal à cette époque-là, un peu à travers le monde, au fur et à mesure du développement de la compagnie de Jean-Claude Galvota. Et c'était une grande chance à la fois de participer à un tel flux de création, et puis en même temps d'avoir cette chance d'être sur scène intégrée à une troupe en quelque sorte.
Pour cette introduction d'émission, nous avons diffusé Obsédiction, qui signifie quoi? Ou alors est-ce que c'est un néologisme?
C'est un néologisme, si vous voulez, c'est entre obsession et séduction. Mais c'était juste parce que c'est une structure répétitive. Vous voyez, vous allez entendre le morceau, c'est une espèce de gimmick de doigts qui se répète un peu de manière constante. Et autour de cette figure s'agglomèrent d'autres thèmes, des morceaux, des accords, etc., qui constituent le morceau. Mais c'est pour ça que ça mélangeait un peu à la fois le côté obsessionnel et puis, j'espère, le côté séduction. Voilà, c'est ça.
Et d'ailleurs, auparavant, vous avez aussi eu quelques approches au niveau de certaines sciences. On peut parler donc de physique, de l'urbanisme, de l'architecture du paysage et de la sociologie également. Toutes ces disciplines nourrissent votre musique?
Oui, mais c'est-à-dire que ma vie professionnelle, elle a été partagée en deux, puisque j'étais à la fois compositeur et donc musicien de scène, interprète, et en même temps, comme j'ai fait des études de sciences humaines, Sciences Po et sociaux, et donc j'ai eu la chance d'être intégré dans une équipe de recherche à l'école d'architecture de Grenoble, et de travailler au sein de cette équipe qui travaillait sur les ambiances urbaines. Donc les ambiances urbaines qui interpellent tous les sens. L'écoute, la vue, le déplacement, la mobilité, les sensations, etc. Et donc le côté collectif, bien entendu, des choses. Et du coup, cette réflexion-là sur les ambiances, elle est forcément liée aussi à ce que j'ai pu faire par rapport aux ambiances de scène ou d'images avec lesquelles j'avais à travailler en tant que musicien. Mais si vous voulez, c'était deux activités qui se sont développées dans ma vie. J'ai eu la chance de n'avoir pas la nécessité de faire un choix qui en aurait supprimé une, parce que les deux m'intéressaient, autant le côté recherche savante, entre guillemets, ou scientifique, autant le côté poétique et artistique était intéressant, et le fait de pouvoir mélanger les deux, ben je pense que l'un a bénéficié à l'autre aussi, de, comme vous le dites, de manière évidente, je crois.
Il y a aussi cette fonction, vous êtes chercheur honoraire au Cresson, on peut peut-être signifier ce que sont ces lettres.
Oui, le Cresson, c'est le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Et donc c'est un laboratoire de l'École d'architecture de Grenoble qui est associé au CNRS et qui fait... Moi, maintenant, je suis à la retraite de cette... C'est pour ça que je suis chercheur honoraire, je ne suis plus actif de cette activité-là. Mais par contre, pendant à peu près 25 ans, 25-30 ans, j'ai été intégré dans cette équipe en suivant les travaux, et notamment les travaux qui avaient accès au sonore. Toute l'analyse du son dans les villes, dans les espaces, dans les habitats, etc., dans le construit, en quelque sorte. Et donc, malgré tout, il y avait beaucoup, beaucoup d'incidences qui rejoignaient mon travail musical, parce que c'est l'analyse de ce qu'on entend, c'est les productions des bruits, des sons. Comment est-ce qu'on arrive à les gérer, comment est-ce qu'on les valorise ou pas, et comment est-ce qu'on les perçoit, en quoi sont-ils gênes, etc. Pas seulement les considérer comme une nuisance, mais aussi les considérer comme une chance parfois dans l'habitat. Voilà, donc c'était toute cette réflexion-là qui était à la fois démultipliée par mon travail de musicien et par mon travail de chercheur.
Vous parlez d'ambiance architecturale, donc il y a cette accaparation sonore et restituée par ces bâtiments, ça c'est un peu l'étude que vous en faisiez.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que on a beaucoup travaillé sur des espaces aussi bien anciens dans des villes que des espaces à construire, en liaison avec des architectes qui étaient en train de développer leurs projets, de manière à tenir compte des réactions des sens. Les cinq sens, quoi, la vue, l'ouïe, l'odorat, le son, l'acoustique et tout ça, pour les futurs habitants éventuellement, ou les habitants actuels, ceux qui fréquentent les lieux, qui font partie de l'environnement, qui en bénéficient, qui l'agissent aussi, au sens où ils le pratiquent, donc ils le modifient, ils le transforment, ils se l'approprient la plupart du temps. Et le mieux, c'est dans la conception des espaces, c'est très intéressant d'intégrer la question des ambiances avant même de proposer un espace qui n'y réfléchit pas et qui imagine que les choses vont bien se passer comme ça, quoi, par le fait qu'on fournit une structure de béton, par exemple, sans avoir pensé à comment elle va être habitée.
Est-ce que pour vous, la bande dessinée est en quelque sorte une résonance sur votre activité sonore, sur le travail du son, avec justement ces captations d'une perception de la vie, de ce qui nous entoure, et de ces restitutions dans des cases, sur ces planches ?
La bande dessinée, c'est un domaine qui a énormément évolué dans les 40 dernières années et qui est sorti du cadre d'une petite occupation pour la jeunesse, pour arriver à développer carrément un neuvième art, en quelque sorte, ou une dimension très importante de la production contemporaine qui traite tous les sujets de la société. Et donc, tous ces aspects-là, l'aspect rendre compte du paysage dans lequel on vit, paysage aussi bien naturel que paysage architecturé ou urbain, la bande dessinée s'en est emparée au niveau international de manière incroyable. Et l'avantage, c'est que précisément, le dessin est un outil extraordinaire pour représenter, parfois caricaturer, parfois pousser les choses au-delà de ce qu'elles sont dans la réalité, pour en montrer justement les aspects profonds, les dynamiques possibles ou les aventures possibles à partir du réel. Et je trouve que on est complètement sorti du monde de l'enfance comme une occupation d'enfance, pour rentrer dans un domaine qui intéresse aussi largement les adultes aujourd'hui, avec les festivals, avec l'édition qui s'est beaucoup, beaucoup enrichie. Et c'est extraordinaire, c'est un domaine superbe, quoi. Et donc, alors moi, je m'y suis intéressé de manière un peu particulière, parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, on m'a demandé de faire la musique d'une série de films qui a été diffusée après sur la télévision, sur la bande dessinée, justement. C'était des portraits de différents dessinateurs, scénaristes, Il y avait Moebius, il y avait Bouc, François Bourgeon, Gégé, des gens de très grande valeur à l'époque. Et puis même encore maintenant, bien sûr, mais à l'époque, ils étaient en pleine gloire, disons. Et en réalisant les musiques de ces films, c'est ce qui m'avait branché vraiment sur ce secteur-là. Et après, bon, ben voilà, après, j'ai continué à travailler dans ce domaine, en m'y intéressant toujours, parce que je trouve que la dimension d'imagination et de rêverie poétique, elle est très, très forte avec ce genre-là, qui mélange le scénario et le dessin.
On peut aussi noter cet aspect de proposition avec de la bande dessinée. Alors, comment abordez-vous cet aspect de la bande dessinée?
Alors écoutez, il ne faut surtout pas que nos auditeurs pensent que c'est une conférence. Ce n'est pas du tout quelque chose de sérieux. C'est plutôt quelque chose de détendu, parfois très drôle. J'essaye de trouver des anecdotes issues de la bande dessinée, etc. Vous voyez, quelque chose qui raconte un peu par le détour, en quelque sorte, ou par le contexte, le cadre dans lequel ça a été fait. Par exemple, je vais vous parler des maladies de Tintin, une façon d'aborder l'œuvre de Hergé par un truc tout à fait intéressant sur les problèmes de santé de Tintin. Ça me donne l'occasion de parler justement de la force du duo et de l'amitié dans la bande dessinée, avec les comparses que le héros se choisit, etc. Des choses comme ça. J'essaye de trouver une incidente qui me permet de rentrer dans un thème, mais ça dure 2-3 minutes entre chaque morceau. C'est très court, hein. Je parle juste un tout petit peu pour lancer le thème, puis après je joue le morceau, etc. On est dans un propos qui s'enrichit à chaque étape, comme des petits chapitres qui se succéderaient. Et souvent, je suis ravi de voir à quel point il y a un déclencheur de rêve qui est fait par une formule comme celle-ci, qui ne joue pas du tout sur une projection quelconque, puisque toutes les images qu'on sont dans la tête des auditeurs, en fait. Puisque le piano, c'est un instrument peu spectaculaire, si on peut dire. Hein. Je ne fais pas d'esbrouf, je ne danse pas, etc. Il y a juste les doigts qui bougent. Et avec tout ça, on arrive à développer des imaginations qui, j'espère, fonctionnent bien et sont riches, quoi.
Henri Torgue, vous-même avez côtoyé des scènes nationales, hein, avec des représentations avec Caroline Carlson également, Philippe Gentil, et puis vous avez aussi donc œuvré pour le 7e art. Qu'est-ce qui vous amène à interpréter vos propositions dans des petits lieux de village, par exemple? Il y a une démarche pour vous?
Ah, c'est-à-dire que là, si vous voulez, moi j'ai... J'ai beaucoup travaillé quand j'étais dans ma phase professionnelle. Effectivement, les choses se passaient à un autre niveau, mais j'étais rarement mis en avant en tant que tel, dans la mesure où ma musique est une musique souvent associée aux images, comme je vous l'ai dit. Et donc, ce sont plutôt les images qui ont été porteuses des tournées, des spectacles, que ce soit dans la danse ou sur les écrans. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que là, je suis dans une phase où je suis plutôt en retrait par rapport à la vie de production, de grosses productions artistiques. Et donc, quand j'ai des sollicitations d'amis qui me demandent de jouer mes morceaux sous cette forme, avec le dialogue avec la bande dessinée, moi, je suis ravi de le faire, parce que ça fait, comme on le disait juste avant, des soirées à la fois conviviales, où on peut échanger, qui sont très très sympathiques la plupart du temps. Et j'espère vraiment que ça sera le cas à Die samedi soir.
Quand vous composez des œuvres telles que pour de la danse ou du 7e art, du cinéma, est-ce que vous pensez que vos compositions sont autonomes dans l'écoute, ou alors est-ce qu'elles sont en quelque sorte un apport supplémentaire de compréhension pour une œuvre?
Alors, l'avantage de la musique, c'est qu'elle ne dit rien de manière évidente. Par contre, elle suggère un cadre de réflexion, un cadre de signification. Mais c'est un cadre qui est extrêmement ouvert. Alors, quand, par exemple, un passage chorégraphique me suggérait de faire tel ou tel développement musical, je m'aperçois qu'après, on peut le situer dans un autre endroit, le déplacer, le faire jouer ailleurs. S'il y a quelque chose de commun entre l'image d'origine et l'image de réception future, il y a un fonctionnement qui marche. Alors, on ne peut pas mettre... Vous le voyez très bien. Quand vous écoutez de la musique de cinéma, par exemple, de film, Beaucoup de musiques de films sont issues d'images très précises, mais ensuite peuvent être utilisées en illustration sonore sur un certain nombre d'autres images ou jouer d'autres fonctions. Et là, c'est le gros avantage de la musique. La musique, elle n'a pas le sens direct qui l'enfermerait dans une signification stricte. Par contre, il faut que le contexte ou la rencontre puisse avoir lieu dans une certaine cohérence. Mais c'est très ouvert quand même comme dialogue. Et c'est pour ça que beaucoup des musiques que je vais jouer samedi soir sont des musiques issues de plein de spectacles différents et qui trouvent, et trouvent par contre, dans ce contexte-là du piano solo autour d'une interprétation comme celle-ci, une signification qui sera originale pour les gens qui vont les entendre à ce moment-là. C'est le gros avantage de la musique.
Henri Torgue, vous avez un site internet pour découvrir votre travail?
Pas spécialement, mais vous pouvez aller sur le site de la maison de disques qui a produit les disques, qui s'appelle Music Box. Et donc, sur ce site, il y a l'essentiel des références, des disques ou des choses que j'ai pu produire, donc que vous pouvez trouver assez facilement accessible, y compris de télécharger des morceaux, d'écouter un petit peu de manière plus large le répertoire que j'ai pu produire.
Et je crois que vous avez une référence BNF hein, également pour connaître votre biographie.
Ah ben c'est-à-dire que là c'est parce que là, j'ai sorti un livre il y a 1 ou 2 ans
Oui.
à chez l'Harmattan qui s'appelle Le piano confident, où je raconte un petit peu l'expérience de ce que j'ai pu parcourir et les contacts que j'ai eus, la chance que j'ai eue de travailler avec des grands créateurs qui pouvaient aussi apporter. Enfin, j'ai raconté tout ça pour essayer de garder une trace, de faire un témoignage en quelque sorte de cette traversée d'une certaine époque, en fait, de la vie culturelle.
Vous êtes également auteur hein, de livres sur la musique. C'est une
Oui.
activité qui vous prend aussi?
Oui, ben c'est surtout quelque chose qui a été le lien que j'ai fait entre mon activité de chercheur et puis mon travail musical, mon intérêt pour la musique elle-même. Parce que j'avais eu la chance de, quand j'ai fait mes études de sociologie, d'écrire le Que sais-je sur la pop musique. Parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas encore de livres sur ce courant-là. Et quand je l'ai proposé à Que sais-je, ils m'ont dit d'accord, pas de problème, allez-y. Mais j'étais tout jeune, hein, c'était un travail universitaire au départ, et puis qui s'est transformé, qui est devenu le Que sais-je, la pop musique, et qui ensuite a été traduit dans plein de langues, en chinois, etc. C'est donc, oui, c'est étonnant, ces carrières-là. Et puis, du coup, ça, j'ai continué à travailler. Puis, bon, au bout d'un moment, ce livre-là est devenu un peu obsolète. Il n'était plus tellement d'actualité. Et donc, il a été retiré par Que sais-je, au bout de 30 ans hein, de vie de diffusion. Mais voilà, c'était intéressant pour moi essayer de réfléchir de manière, avec les moyens que mon activité de chercheur me donnait, sur un domaine d'activité qui me passionnait par ailleurs, la musique.
Henri Torgue, je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps donc pour ce samedi 5 avril à 19h30 au Café Théâtre Andartha. Donc, vous proposerez ce voyage musical dans le monde imaginaire de la bande dessinée et je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, je vous remercie infiniment et je serai ravi de rencontrer nos amis de Die à cette occasion.
Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.
Au
Au
revoir.
revoir.